Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 22 septembre 2007 et le bikini a rouvert hier.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
Maslan,
ouais, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, sortons.
Suivi de...
du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie et de la banque donneuse d'oreilles.
Et ensuite
à 15h, je ne sais pas, à 16h, je ne sais pas, 17h, Big Bang, à 18h, Vie d'ordure, à 19h, Happy Hour, à 20h, La Stéréo Expérience, 21h30, je ne sais pas, 23h, je ne sais pas, vous écoutez FMR. Et les salariés font très mal leur boulot, ils vont tous être virés. Rouse. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Il y a Enflammé qui est là parmi nous, il y a du sport qui va arriver, c'est le supplément week-end et quand même, comment dire, on a un week-end un petit peu fou en ce moment, puisque c'est la grosse teuf, et puis voilà, et on est super heureux. Et ça, on en parlera juste après, oui ça se voit, voilà exactement. Un petit coup de Prodigy, oh ça faisait longtemps tiens. Avec ça, ils te retournaient le dance floor, c'était garanti, tu vois.
We'll be right back.
Music for the Ginger Generation, c'était surtout ma génération. Je sais, c'était en 94. Surtout le deuxième album de The Prodigy. Il était sorti juste à temps au moment de la réouverture du Bikini. C'était le Bikini 2. Et aujourd'hui, on fête la sortie du troisième Bikini. Oye, oye, le Bikini vient de rouvrir. 6 ans après avoir été soufflé, l'agglomération de Toulouse a enfin à nouveau une salle de concert digne de ce nom. Une salle qui est un vrai lieu accueillant, un véritable écrin aux musiques amplifiées, avec un vrai son, une vraie acoustique étudiée, qui ne demande pas des frais de location ahurissants aux organisateurs et qui a encouragé la création d'un vrai écosystème. On ne félicitera pas la mairie qui a promis depuis très longtemps une salle pour les musiques actuelles, mais dont la politique répressive a tout fait pour casser l'ennemi toulousaine depuis 10 ans. Et dire que Jean-Luc Moudenc veut s'approprier le terme Movida. Non, non, je déconne pas. D'ailleurs, voilà, j'en ai la preuve.
Il y a de la Movida dans l'air.
Bah non, pas du tout. Avec la mairie de Toulouse, il n'y en a jamais eu. Ils ont tout fait pour stériliser la vie culturelle. Et il faudrait d'abord qu'ils comprennent ce que ça veut dire, Movida. Qu'ils comprennent. C'est-à-dire, nous, on regarde plus côté Barcelone que côté branchouille cucu parisien. Mais cet andouille n'est arrivé à Toulouse qu'une fois que le Bikini détruit. En attendant, c'est la fête depuis hier. C'est la fin de Toulouse, ville morose, des week-ends sans rien. C'est le retour à la créativité musicale. Une vraie MJC privée. Ou pour peu qu'on se bouge les fesses, qu'on a de bonnes idées, l'envie d'y faire découvrir quelque chose, et surtout qu'on ne foute pas le bordel, on pouvait y organiser des soirées démentes, un festival électro-expérimental avec du gazon par terre où tout le monde s'est assis. On pouvait aussi, on a eu aussi une soirée bug de l'an 2000 avec 20 DJ et un flyer cartonné format comics. Un groupe de hip-hop parodique qui faisait une queue leu avec son public, une finale de Sporta, c'était en 98, une journée gargote avec moules frites, un gâteau sur scène avec 1200 personnes qui chantent en chœur joyeux anniversaire. Aucune autre salle sur Toulouse ne peut se targuer d'avoir eu l'esprit aussi ouvert. Rien que le planning de réouverture est alléchant. The Dead 60s, c'est mercredi prochain. Eden Factory, vendredi 28, puis ensuite pour le lancement de leur label le 6 octobre. Hypnolove, samedi 29 septembre. Les Ogres de Barbac, ça c'est mardi 2 octobre. Subcode, vendredi 5. Art Brut, lundi 8. Même le flyer des Inrock revient à Toulouse. Ça n'était pas arrivé depuis 2001. Pour faire Jones, Hervé a mis la liste complète de ses soirées dans son MySpace. Bon, allez, ok, c'est assez fun, mais on n'ira plus à pied en passant par les berges de la Garonne, mais forcément en y allant en voiture. Après tout, c'est loin, Ramonville, parc technologique du canal. Le Bikini Roof, c'est une fête, c'est le retour des fêtes. In Bikini, du Rarock. Spécial casse dédié à Hervé, à Fabrice, à tous ceux qui ont créé l'esprit, à tous ceux qui ont su le faire continuer pendant 6 ans de galère. Bonne chance et encore merci pour tout ce que l'on va y vivre. Voilà, si vous êtes intéressé, sachez que le Bikini est en ouvert et ouvert librement au public ce dimanche durant l'après-midi, c'est-à-dire que les autres soirées, elles sont sold out, c'est complet, c'est barré, c'est rempli, et on ne pourra pas y entrer malheureusement. Mais en tout cas, il y a tellement de trucs, voilà quoi. Je crois que du sport même, il a prévu une rétrospective quand je vois le quand je vois le stock de CD qu'il est en train de caler. Mais voilà. Il y a Thomas qui est en train de lire le SoFoot, mais je crois qu'il y a des dépêches qui viennent d'arriver sur le téléscripteur, non ? Par hasard.
Si, si, si.
Hein ?
Maintenant ?
Ouais.
And now, the news.
Ce flash spécial vous est présenté par Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier. Bonjour du sport. Alors, des news spéciales cinéma aujourd'hui, puisque voilà, quelques news à nous mettre sous la dent pour des sorties de films, oula, pas avant certains 2009. Donc justement, les questions de cette date-là pour la première nouvelle, en fait, c'est ça concerne Avatar, le fameux projet l'Arlésienne de James Cameron. Voilà, qui avait dit oui, on va faire un film en mêlant prise de vue réelle, 3D, photoréalisme virtuel, avec des acteurs numériques face à des acteurs en chair et en os. Donc, donc c'est Avatar et ça raconte l'histoire d'un groupe d'humains combattant les indigènes du planète éloigné et donc qui va tourner avec son actrice fétiche, Linda. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. C'est Sigourney Weaver qui va jouer dedans accompagnée de Giovanni Ribisi et ce film est prévu pour mai 2009, sachant que James Cameron au cinéma n'a rien fait depuis Titanic en 97 déjà.
Et qu'il a lancé tout plein de projets super alléchants, Battle Angel Alita, basé sur Gun, mais tout ça. Mais...
Oui,
que dalle.
Que dalle. Bon, là je pense qu'il va. Il avait annoncé il y a plus de 5 ans déjà qu'il allait faire 4 films en 3 ans.
Oh, oh.
Voilà. Il a fait. Bon, il rendra César quand même. Bon, il a quand même lancé Jessica Alba avec Dark Angel au ciné, à la télé. Oui, ton micro n'est pas branché.
Oui, tu voulais dire, pardon, excuse-moi.
Dark Angel, oui.
Dark Angel, il a fait aussi les Phantom Titanic avec un film documentaire sur les papes Titanic aussi. Donc, bon, voilà. Et il s'est également entraîné pour aller dans l'espace. Dans l'espace. Bon, voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur Avatar pour l'instant. Prochain film de Darren Aronofsky, donc c'est l'excellent réalisateur de The Fountain, de Requiem for a Dream et de Pi. Alors justement, il n'avait pas pu jouer, tourner avec Brad Pitt pour The Fountain et c'est une chose qui va être réparée puisque son prochain film ça s'appellera Fighter et ce sera un énième film sur la boxe. Mais bon, il y a aussi Mark Wahlberg dedans, comme c'est le réalisateur quand même de films où il avait apposé sa patte vachement expérimentale avec du noir et blanc très granuleux et puis de la musique techno aussi sur Pi, je crois qu'il y a eu le Prodigy dedans. Requiem for a Dream, c'était un film sur la dépendance avec beaucoup d'inventivité dans la mise en scène pour illustrer justement les petites scénettes illustrant la dépendance et aussi The Fountain qui a vachement divisé. Ben, on peut dire quand même que ce projet Fighter commence à nous faire saliver grave. Southland Tales, aussi d'un autre gars vachement barré, c'est Richard Kelly. Alors il peut faire du très bon Donnie Darko, que je n'ai pas vu d'ailleurs.
Bon, très très bon.
Voilà, mais aussi du très mauvais, enfin à mon sens, puisqu'il a scénarisé Domino. Je crois que du sport t'avais vu des passages, mais je te l'avais pas vu en entier, je crois.
Non, non, mais enfin j'en ai eu de grosses parties, on va dire. Mais comme ça, quoi, tu vois.
Oui, mais c'est ça le film.
À la manière Zapette.
Voilà, le film est une Zapette géante d'ailleurs. Alors, Southland Tales, eh bien, c'est l'OVNI depuis le festival de Cannes. Je crois que c'était, je sais même pas si c'était ce festival
non,
de Cannes,
non, c'était l'année dernière. Hein.
Voilà.
Et donc, il est toujours pas sorti le film.
Non,
mais il paraît que c'est bon, que c'est carton, c'est rentre dedans. Il y a vachement de cul aussi, quoi. C'est comme le film que t'as programmé là. Le short bus,
oui.
C'est pareil, hein. Il y a plein de spectateurs qui se sont dit, c'est quoi cette merde? Non, c'est trash, c'est dégueulasse.
Eh bien, tout à fait, puisque le film est prévu pour le 9 novembre aux États-Unis. Toujours pas de date officielle annoncée pour la France, mais rien que le casting, ça fait saliver. Donc, The Rock, Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake. Bon, pour l'instant.
Ouais, Sarah Michelle Gellar, en plus, qui joue le rôle d'une actrice porno, quoi.
Voilà.
Alors, donc, bon.
Il y a aussi Kevin Smith dedans et Christophe Lambert. Christophe Lambert, voilà, dedans. Alors, le pitch raconte quoi ? Nous sommes le 4 juillet 2005, donc le jour de l'indépendance, et des gens et des enfants s'amusent, comme les images d'Épinal des films hollywoodiens, et puis paf, le choc, une attaque nucléaire. Le monde ne sera plus jamais comme avant. 3 ans ont passé, l'Amérique est en guerre, histoire de combattre ceux qui l'ont offensé. Ça rappelle des choses, hein.
Indépendance Day ?
Non. Pour répondre à la pénurie de carburant, la compagnie tentaculaire US Dent élabore un générateur d'énergie inépuisable qui fonctionne sur les flux de l'océan, mais altère imperceptiblement la rotation de la Terre. Pendant ce temps, une vedette de film d'action cherche à vendre un scénario sur la fin du monde qui pourrait bien prendre forme. Donc voilà, complètement barré, mise en abîme, film dans le film, tout ça, ça a l'air vachement rock and roll et très bandant en tout cas. Donc Sauce Lentils de Richard Kelly, annoncé aux États-Unis pour le 9 novembre et toujours pas de date pour la France. Et dernière petite news, ça va concerner notre ami Manu qui n'est pas là aujourd'hui. On parlait de Christophe Lambert tout à l'heure. Eh bien, l'édition Ultimate du premier film Highlander, d'ailleurs il n'en existe qu'un, va sortir bientôt chez nous, avec un superbe coffret métallisé, une édition Ultimate en 3 DVD. Donc le premier DVD, il y a le film proposé dans sa version française d'1h48, le deuxième DVD comprend le film dans sa version européenne 4 minutes de plus, disponible commentaire audio de Russell Mulcahy, le réalisateur, et le DVD 3 comprend un making-of en 3 parties réalisé pour la télé allemande en 2006, une interview de Christophe Lambert. Une interview de Christophe Lambert réalisée avant la sortie de Highlander Endgame. Donc, quand même, il sortait de l'échec du 3 et de l'échec du 2, mais c'était avant l'échec du 4 et l'échec du 5. Donc, ça peut être rigolo de mettre tout ça en perspective. Et il y a également une bande-annonce et une galerie de photos et affiches. Sachant que tous ces bonus, en fait, l'édition prétendument Ultimate, la majorité des bonus étaient déjà présentes sur l'édition juste collector. Donc ça sent un peu l'arnaque, ce truc. Mais bon, pour les amateurs qui n'en peuvent plus et puis qui veulent absolument posséder la version d'1h48 et la version d'1h52, mais voilà, vous l'avez. Donc c'est tout pour cette news.
Merci. Midi 18 minutes sur la poubelle des radios. C'est le supplément week-end et on va entamer les sorties bande dessinée. D'ailleurs, je suis pas sur le bon CD, la preuve.
Oh, une plantage de CD, tiens.
Voilà, je me disais aussi. Jean Dufaux au scénario, Paolo Serpieri au dessin. Ça dit quelque chose, à mon avis, du sport. Les Enfers, le premier tome donc de cette nouvelle série, s'appelle Les Trois Clés, vient de sortir dans la collection Robert Laffont BD. C'est encore, je rappelle que Jean Dufaux est un très 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 grand scénariste de la bande dessinée franco-belge, où il fait du polar, il fait aussi de l'historique et de la SF. Et ben là, on est dans de la SF où il existerait trois portes mythiques. L'une donne sur l'enfer, douleur éternelle garantie, une autre sur le néant, faisant disparaître toute trace dans l'univers de celui qui la passe. Et la troisième sur le paradis, la voie royale vers la gloire éternelle, in excelsior Deo, etc. De ces trois portes, on a perdu la trace de leurs clés. Personne n'a l'idée de ce qu'elles sont devenues, sauf le père de Saria, qui va bientôt passer l'arme à gauche. Car le prince Azanti, a reçu les fameuses trois clés de ses ancêtres et les lègue à sa fille, la mettant par la même en grave danger. Deux personnes mortellement dangereuses recherchent ces clés. Le doge de Venise, qui assoit son pouvoir autocratique sur la ferveur religieuse, et le non moins redouté Galadriel, ange de la mort et vecteur de la peste. Galadriel, trompée par les dires du prince Azanti sur son lit de mort, assassine les inquisiteurs assis à la droite du doge, dans l'espoir de retomber sur les objets de sa convoitise, tandis que le doge mobilise ses facies pour retrouver la jeune fille. 6 années ont passé, l'ordre religieux règne toujours sur la ville, une poigne de fer, mais celle-ci commence un peu à rouiller dans l'ambiance décrépite. Jean Dufaux remet une couche de sa vision dictaturo-décrépite du futur. Il adore aussi les villes vénérables qui sombrent dans une pourriture, comme dans la série Ombre, chez Glénat, dessinée par Lucien Rollin. Paolo Serpieri adore travailler sur les textures, les ambiances et les corps. Le dessinateur de Druna, une autre série de SF fantasy plutôt autour de filles à la corpulence généreuse, se plaît à dessiner cette Venise façon Beatifica Blues. Les façades décrépites, d'immenses tuyaux qui parcourent la ville, un brouillard masquant l'eau glauque. Une Venise pas franchement glamour. Les Enfers, le premier tome s'appelle Les Trois Clés, de Jean Dufaux au scénario et Paolo Serpieri au dessin, c'est sorti la semaine dernière chez Robert Laffont Bande Dessinée. We'll be right back. cas au scénario, c'est un couple de scénaristes toulousains dont on a déjà parlé dans cette émission. Bloz au dessin, les fonctionnaires, le 8e tome s'appelle Bureau sans tabac et vient de sortir chez Bambou Édition. Oh que voilà, une bande dessinée qui est dans l'air du temps. Une BD qui s'attaque à la cible favorite des colibés et d'une profession dont rêvent 50% des Français. Le fonctionnaire de bureau. Un fonctionnaire de bureau, c'est forcément grincheux, fainéant, syndicat, arriviste, tiroflant, pas aimable, flemmard, sous-occupé, obtus, pantouflard, encouté. Bref, un fonctionnaire est un conservateur de gauche. Vous savez, c'est les mecs qui bossent dans la maison qui rend fou. Voilà. Hein,
vous n'avez passé à 38.
Mais vous n'avez pas rempli le
formulaire rose.
Le formulaire rose en quadruplé exemplaire avec un tampon bleu sur la cinquième exemplaire. À l'heure de la rupture tranquille, le fonctionnaire est un reliquat malvenu de l'ère du tout papier, un déchet manifestant à la moindre nouveauté, une graisse de mammouth qui plombe le train de vie de l'État. Et la meilleure preuve que le fonctionnaire est rétif aux réformes et un vil conservateur, eh ben, c'est quand il s'agit d'appliquer l'interdiction de fumer au bureau, ça devient vite le bordel, syndicat en grève et tout le reste. Becca, un couple scénaristique aussi auteur des footmaniacs et des rugbymen, bref, de véritables usines à produire du gag en une planche. Et très honnêtement, c'est la dernière série citée, les rugbymen, qui a un petit peu d'actualité en ce moment, qui me plaît le plus, puisqu'au-delà des clichés, elle provoque une certaine sympathie. S'attaquer aux fonctionnaires administratifs est tendance, pas uniquement à cause de la couleur politique du pouvoir, mais aussi à cause de l'évolution extrêmement rapide de la gestion des dossiers par l'informatique. L'album est bourré de clichés, joue sur les clichés, et à force, on imagine la chute, forcément cliché, bien avant la dernière case. Après, si vous avez un ami dans la fonction publique, ou si vous avez un ami patron, artisan, profession libérale, ou qui vote à droite, n'hésitez pas à lui offrir cet album, ça le fera rire. Au moins jusqu'au 18 octobre prochain, où une grève nationale organisée par les syndicats devrait avoir lieu. Les fonctionnaires, le 8e tome s'appelle Bureau sans tabac, c'est de Becca et Bloz, c'est chez Bambou Édition. Ceci dit, c'est effectivement une chronique qui est bourrée de clichés et tout ça, mais quand même il y a eu une première réforme de l'administration depuis 7-8 ans sur la simplification des procédures qui est quand même un peu bienvenue. C'est plus aussi chiant qu'avant de remplir ne serait-ce que sa déclaration d'impôt, hein, vous savez, à l'époque où il y avait 8 pages et où si vous vous trompez, ben, vous étiez sûr qu'il y avait un sympathique monsieur qui arrivait. Voilà, et si vous voulez protester, râler contre les chroniques que vous jugez pas honnêtes, méchantes, antipathiques et tout le reste, n'hésitez pas. Le site de l'émission, c'est Supplément Weekend, sans accent, sans tirer, tout accroché, supplémentweekend.tk. Vous mettez ça sur votre navigateur internet, que ce soit Internet Explorer, Safari, Opera ou Firefox, ce que vous voulez, ou Netscape. Vous tapez supplémentweekend.tk et vous tombez directement sur le site de l'émission. Vous pouvez réécouter toutes les anciennes émissions. Vous pouvez intervenir sur les chroniques et poser vos questions.
Mais justement, quelle transition !
Ah, c'est super ! Merci Thomas de me venir.
Donc,
La semaine dernière, donc, du sport avait posé une question.
Il était dans le désarroi le plus total car il se posait beaucoup de questions. Et tu as sollicité l'avis des audispectateurs.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous rappeler la question ?
Ah, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle est vraiment morte ? Est-ce qu'on l'a vraiment tuée, la copine de Lincoln ? L'ex de Lincoln, en fait. Hein.
Dans Prison Break.
Dans Prison Break.
Eh bien, deux audispectateurs ont répondu. Donc, justement, notre cher ami Manu qui répond à 16h43 dès samedi. Il me semble qu'on a bien vu la balle lui traverser la tête. Mes souvenirs sont confus, il se peut que je confonde. Mais on a déjà vu un gamin sauvé de cette situation dans Monster. Peut-être le professeur Tanma peut-il faire quelque chose pour cette pauvre Véronica.
C'est vrai que Monster, quand même, c'est une série japonaise. Faut quand même pas mélanger.
Voir Docteur Koto, quoi.
Koto,
ah ouais, voilà. Ah ouais, joli crossover. Mais je ne sais pas si c'est la même chaîne de télé qui diffuse. Hein.
Suivi très peu de temps après, à 21h35, par Xifo. Non, 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 l'agent du gouvernement tire 3 balles et c'est tout. Arrêtez ou je spoil méchamment.
Bon, je vous rappelle quand même que le but du jeu, quand on vous pose ce genre de questions, c'est allez-y quand même dans vos spéculations, mais si vous avez vu la fin ou si vous la connaissez, la racontez pas, quoi.
Mais
c'est
si, bon, mais, c'est si, mais si, mais
si. C'est enfoiré. Du sport, évidemment, il va s'y lancer, mais non, j'ai dit non, non. Et hors de question. Donc suppléments-weekend.tk, je crois qu'il y a encore d'ailleurs le billet en question est encore accessible dans la liste des dernières chroniques. Et n'hésitez pas, donc posez, allez-y de votre rubrique dithyrambique et tout ça.
D'ailleurs, il faut, nous faut une rubrique question des audits spectateurs parce que pour la réimprimer
un
ce
jingle,
matin,
pardon.
J'ai tastuqué pendant 5 bonnes minutes avant de le retrouver.
Bah, fallait aller dans les anciennes chroniques, elle y était. Oui. Elle était listée, mais par contre, oui, on va faire un jingle.
Je suis allé très naïvement dans poser de nouvelles questions et ça y était pas, c'était ailleurs.
Bon, d'accord, ok. On le fera, on le fera. J'ai une bonne nouvelle pour la régie publicitaire, il est midi 27 minutes et 54 secondes et maintenant ils vont pouvoir passer deux pubs. Évidemment, je vous dis les faits.
Deux pubs de la mairie de Toulouse.
Le 22 septembre, ça va être la méga fête rue Alsace.
Ouais.
Des bandasses partout, un concert gratuit.
Du théâtre de rue, des surprises dans les magasins.
Et plein de jeux rigolos pour nous.
Le 22 septembre, fêtons tous ensemble la nouvelle rue Alsace.
Mairie de Toulouse, www.toulouse.fr.
Il y a de la Movida dans l'air.
Plus beau et plus fluide, le cœur de Toulouse bat plus fort. On lézarde à la terrasse des cafés, on flâne au soleil, on discute entre amis, la ville pétille, la ville respire. C'est la Movida Tolosa du cœur de ville.
À nous le shopping plaisir, le shopping fashion, à nous le shopping évasion.
Mairie de Toulouse, www.toulouse.fr.
Éphémère. Je rappelle que c'est la vision de la Movida selon donc Jean-Luc Moudinc, maire intérimaire de Toulouse et qui visiblement n'a jamais été à Barcelone.
Et je rappelle que ce communiqué n'est pas sponsorisé par les commerçants de la rue Alsace.
Et on trouvait par ça particulièrement d'ailleurs minable et on remercie ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Pendant ce temps-là, la Movida revient à Toulouse. Devinez qui revient ? Bah le bikini. Yeah. Spécial dédicace. Cash in this, master this, blast this and make a clap to this. DJs throwing cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip hop's embedded. Before I said I wouldn't let it, but me and the microphone is still magnetic. Straight off the top, I knew I'd be forced to rock. Dance floor to stock, the spot scorching hot. Open, I open, rocking my law seminars, massage at the bar, smoking 10-hour cigars while I mind meaties. With more vision than TVs, I find it easy catching diabetes and fly sweeties. Sit back. And wait to hear slamming track. Rock a jam by a popular demand. I'm back. I control the crowd. You know I hold it down. When it drop, you know it's jiggy when you hear the sound. From town to town. Until it's world renowned. And I rock New York City all year round. It's on so you can swerve when it's heard in clubs. Thought patterns displayed on Persian rugs. Equations are drawn up in paisley form. Mic is stay warm. My flow is avion. Deep as a nautilus. You stay dipped in raw style. From the shores of Long Island, the Panama Canal. Intellect pictures show trends like a clothes designer. I'm in effect quicker than medicines in China. Split the mic open, fill it with something potent or going. And take a toting, metro planes start floating. High signs are spoken, altitudes cause choking. Product is hypnotic, it's soaking, it's still soaking. Showing better scenes than grams of amphetamine. Plans and schemes, means I forever fiend. Long as the mic is loud and the volume's pumping, I'ma move crowds of 2,000. I control the crowd, you know I hold it down. When it drop, you know it's jiggy. You hear the sound from town to town until it's world renowned. And I rock New York City all year round. My vibes and lyrics find spirits like a seance. It's fat crayon. My writings display chaos. My plan is damaged. The diagram, the way to damage. I take advantage until the crowd go bananas. What a rush. I hear cuts and I lust to touch. Microphone be clutched by the illustrious. Word spread I inherited. Many ways to say the unsaid. Born with 3 sevens in my head. In time, no one can seem to blow your mind as far as this. To find you'll need philosophers and anthropologists. Astrologists.
colleges. Professors from the smartest colleges with knowledge and scholarships. Where I be dropping it. Some of the things that I know. Oh, be in your next Bible. When I die, go bury me in my notebook in Cairo. With the great God from Egypt manifest. Was right rhymes, line with the stars. I'll come back to bless the mic.
I control the crowd. You know I hold it down. When it drop, you know it's jiggy. When you hear the sound from town to town until it's world renowned. And I rock New York City all year round. I control the crowd. You know I hold it down. When it drop, you know it's jiggy. When you hear the sound from town to town until it's world renowned. And I rock New York City all year round.
Rockin' my law, the microphone fiend is back. You know what I mean? To death do us part. It's on.
Rockin' my law.
Rakim, Guess Who's Back, sans Eric B, mais pour Hervé Sansonetto et Fabrice. Voilà, parce qu'eux, ils ont compris ce que ça voulait dire Mobida. Et on m'a fait signaler d'ailleurs fort amicalement que Thomas quand même n'est quand même pas très adroit, puisqu'il suffisait d'aller dans la fiche de l'émission du 15 septembre, et là il y avait une rubrique, la question des audis spectateurs, en lien avec l'autre.
Ah ben oui, mais ça c'était pas au courant, tu le sais pas.
Voilà, supplémentweekend.tk, il y en a qui suivent au moins. Merci, merci, merci. Du sport, lui s'est endormi.
Bah ouais, ouais.
Donc alors si quelqu'un peut lui résumer l'épisode 4, je crois, de Prison Break saison 2, ça lui serait très sympa.
Ouais, enfin la fin quoi. La fin, parce que bon, moi ce qui m'intéresse en fait, hein, dans Prison Break, y a pas de problème, hein, c'est quand même la cavale de T-Bag, qui est quand même la plus intéressante du lot, hein, parce que bon, la cavale des deux frangins, bon, c'est vraiment assez n'importe quoi. Quoique là, ça commence à se resserrer un peu mieux, hein, avec l'ex-maton qui vient de les retrouver, là, ça devient un petit peu plus couillu, plus intéressant et tout, hein, c'est sympathique, mais sans plus, quoi. Enfin bon, c'est la cavale de T-Bag qui est quand même vachement rigolote, hein, de toute façon, le coup dans les chiottes et tout, là, c'est impeccable, là, hop, et je te glisse les clés dans la poche et tout, c'est rigolo, quoi, c'est pas mal, c'est sympathique, sans plus, hein, sans plus, de toute façon, quoi. Parlons des Emmy Awards, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, puisque bon ben ça avait lieu dimanche dernier, dimanche très tard dans la nuit, vers 2h du matin, ou alors il y avait un gros résumé le lundi suivant, c'est-à-dire lundi dernier, sur la chaîne Série Club, et là, eh bien, bon, on va pas donner vraiment tous les Emmy, on va faire ceux qui sont les plus importants, avec des surprises quand même, des surprises, hein. J'avais donné les favoris, des préférences également, hein, tout à fait personnelles. Et là, bon, ben, il s'avère que, bon, le poids lourd de la liste, hein, 15 nominations quand même, c'était Les Sopranos, ouf, normal, saison finale et tout, un dernier épisode final qui a été vu par un record de spectateurs, je sais pas, ils étaient presque 19 millions, un truc monstrueux, quoi.
C'est énorme pour une chaîne du câble.
C'est pas le record absolu, hein, mais bon, c'est quand même énorme, quoi. C'est pratiquement du jamais vu, un des meilleurs scores d'ailleurs pour la série Soprano, hein, en plus, quoi, l'épisode final. Et bien évidemment, c'est au niveau série dramatique Les Sopranos qui l'ont emporté, qui ont également emporté l'Emmy du meilleur réalisateur, Alan Taylor, pour le final des Sopranos, et le prix du meilleur scénario pour David Chase, bien sûr, le créateur de la série Les Sopranos. Sinon, une petite surprise quand même, meilleur acteur d'une série dramatique. Alors moi je vous avais dit le grand favori, James Gandolfini, bien sûr, Soprano, mais il y avait également Hugh Laurie qui pouvait être qui était nominé et qui avait quand même quelques petites chances de l'avoir. parce que les années précédentes, bah, il s'en est fallu d'un tout petit peu pour qu'il l'obtienne. Et là, bah, la grosse surprise, c'est James Spader qui obtient le meilleur acteur, l'Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique pour la série Boston Legal. Boston Legal qu'on avait entreaperçu à la télé française, mais ils ont vite dégagé parce que bon, bah, personne n'y comprenait rien. C'est la série qui se passe dans un cabinet d'avocats où James Spader, il est avec ex-Captain Kirk.
Oui, tout à fait.
Ouais,
où il y a eu une dans la dernière saison qui a été diffusée aux États-Unis, il y a eu une tirade absolument fabuleuse autour à propos de Guantanamo. Puisqu'il est censé défendre quelqu'un qui, a été accusé à tort et a été incarcéré abusivement à Guantanamo. Et ça a fait le tour de la blogosphère, d'ailleurs. Il était très fort.
Ensuite, du côté des... toujours dans les séries dramatiques, dans les rôles dramatiques, le second rôle dans une série dramatique, alors là, c'est justifié, hein, Terry O'Quinn pour Lost. Hein, bon, Terry O'Quinn, un excellent acteur, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon, quoi. Meilleure actrice dans une série dramatique, Sally Fields pour Brothers and Sisters. Là, je vous l'avais donné la semaine dernière, je vous ai dit que bon, elle était nommée et puis que... Et Sally Fields qui a d'ailleurs foutu le boxon lors des Emmy, hein, parce que bon, bah, elle a quand même été censurée, quoi. Elle a voulu sortir deux, trois petites vérités, forcément un petit peu dérangeantes. Et puis bon, dégage, non, laisse tomber, c'est pas la peine. Bon, bah, ok. Et pour l'Emmy du meilleur second rôle féminin dramatique, c'est Katherine Heigl pour Grey's Anatomy. Hein, consensuel quand même, hein, y a pas de problème. Du côté des rigolos, des séries comiques, alors là, c'est une série comique qui devrait débarquer prochainement chez nous, hein, si les programmateurs sont pas trop cons. C'est la meilleure série, c'est 30 Rocks, donc un truc qu'on connaît pas ici, du tout, mais qui a vraiment cartonné. De l'autre côté, le meilleur acteur comique, ça je vous l'avais donné, Ricky Gervais pour Extras. Le meilleur second rôle comique, alors là j'en ai parlé pas pour sa participation à une série, si je l'avais déjà nommé parce que il avait fait forte impression quand il interprétait le rôle dans le Larry Sanders Show, le rôle d'un scénariste complètement déjanté, Jeremy Piven, qui est Buddy Israel dans le Mise à prix de Joe Carnahan, hein, le rôle principal, et il a obtenu le meilleur second rôle comique, l'Emmy, pour son rôle dans la série Entourage qui est diffusée par TPS Star et donc qui diffuse je crois en ce moment la deuxième saison. Meilleure actrice comique, ça on s'y attendait de toute façon, America Ferrara pour Ugly Betty. Et meilleur second rôle comique, alors là ce n'est que justice, quoique l'autre nana aurait pu l'obtenir aussi, hein, pour la série My Name Is Earl, c'est Jaime Presley, la blonde là, la bimbo là, l'ex-femme de Earl, qui sort avec Krabs, avec le black là, qui a les cheveux crépus là, l'afro, la coiffure afro, voilà, c'est ça. Ensuite, meilleur dessin animé. Alors là, c'est facile. Vous allez me le dire, facile.
Meilleur dessin animé à la télé. Oggy et les cafards.
Non,
c'est trop vieux, c'est trop vieux.
Ils en sont à la 10e saison. Ils n'arrêtent pas d'allumer tout le monde.
Il y a South
eu
Park.
Un film, bien sûr, South Park. Et la meilleure mini-série, complètement inconnue. Je sais même pas ce que c'est Broken Tales. Que c'est certainement sur Canal+ qu'on la verra de toute façon. Voilà donc pour les 59e Emmy. Un petit peu de musique maintenant.
On va un peu bouger quand même. Allez. Ben, décidément, ce matin, l'équipement, tout part au ralenti. Hein. Vous êtes sur Radio FMR, comme d'hab. Voilà, ça y est, c'est parti. Artful Dodger, Something. Vous écoutez FMR les midi 41. Something. Pas de panique, on contrôle le lecteur CD A, le lecteur CD B. Tout se passe bien.
Plus qu'une petite poignée d'heures avant la nouvelle série. Non. Ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que, contrairement à d'autres séries qui ont duré et qui sont restées ancrées dans l'inconscient collectif pendant les années et qui vont rester longtemps ancrées dans l'inconscient collectif, cette série ne durera certainement pas et sera probablement oubliée, à mon avis. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette série a un début et une fin qui est déjà programmée. Une fin programmée pas plus tard que samedi prochain. Ah oui ! Car il s'agit de Lost Room, diffusé à partir de ce soir sur M6, à partir de 20h50, et qui est en fait, dans sa diffusion originelle, une mini-série de 3 fois 90 minutes, et qui donc a été transformée par M6 en 6 épisodes.
Oh non.
Si.
Et vas-y que je cute, 3, et vas-y que je charcute.
3 par samedi, donc 3 ce soir et 3 samedi prochain. Lost Room, c'est quoi ? Alors c'est quand même du haut de gamme, il suffit pour cela, c'est créé par Laura Arkham et Christopher Leon. Avec dans les rôles principaux Peter Krause, génial, excellent dans Six Feet Under, hein, c'est lui Nat, le frangin qui retourne à la maison lors du premier épisode, et puis bon, tout le bordel, tout le succès que cette série a connu. Roger Bart qui lui est dans Desperate Housewives, on a, je crois que ça a sonné la porte. On a Dennis Christopher qu'on a vu dans Deadwood et le retour de Juliana Margulies qui était la copine de Dr. Ross dans ER dans Urgence, bien sûr. Et il est également dans le rôle du méchant, et lui joue bien les rôles de méchant de toute façon, Kevin Pollak. L'Ostrum, ça parle de quoi? Ça raconte l'histoire d'un détective interprété par Peter Krause qui a quelques petits problèmes existentiels, on n'en dira pas plus, et qui, à l'occasion d'une enquête, se voit confier par un type qui est en train de poursuivre et qui est en train de mourir une clé, la clé d'une chambre de motel située sur la Route 66, qui maintenant c'est vraiment une route... Si tu veux faire du tourisme et que tu veux prendre la route 66, il faut vraiment avoir une bonne bagnole et avoir vachement de temps parce que bon,
elle est plus entretenue. Il y a une autre voie.
C'est une route départementale, tu vois. Mais alors départementale, genre même ici, quoi, en France, t'as des routes départementales qui t'as l'impression que c'est des nationales. Hein, pour te dire, hein, même quand t'es perdu au fin fond nulle part, départemental, c'est encore super nickel, quoi. Et alors c'était vachement étonnant en plus. Hein. Et donc dans cette chambre d'hôtel, eh bien, il va trouver une porte qui donne sur quoi? Je vous le donne en mille, sur des univers parallèles. Et c'est là qu'intervient la notion de science-fiction, de fantastique, hein, parce que c'est en fait un mélange entre une espèce de polar sympathique et également une série fantastique. Alors, va-t-il être intéressé par cette porte qui donne sur l'univers parallèle? Ben non, pas du tout. Mais à partir du moment où son fils ou sa fille va se faire enlever et va pénétrer dans cette porte et donc disparaître, là, ben, ça va l'intéresser un peu plus. Je n'en dirai pas plus. C'est ce soir Lost Room. C'est sur M6 à partir de 20h50. Alors, je rappelle, 3 épisodes ce soir de 45 minutes, suivis de samedi prochain les 3 autres derniers épisodes de cette mini-série qui au départ faisait 3 fois 90 minutes. Lost Room donc sur M6. Partir un jour, je sais pas si c'est comme ça qu'elle chante, la nana. En plus c'est la nana qui chante le générique français de Heroes, elle a commencé sa carrière dans Le Roi Soleil. On est vachement content de l'apprendre. Et ce qu'on est vachement plus content d'apprendre, c'est que TF1 a pris une grande décision. Ils se sont dit, il y en a marre. Tous les gens savent déjà la fin de Heroes avant qu'on diffuse les épisodes. C'est pas normal. On paume du fric.
C'est surtout à force de les passer en brique, conséquent plus, il y a des coupes et quand on loupe une soirée, on loupe 3 épisodes d'un coup.
Et en plus,
maintenant, chez certains opérateurs, on peut plus enregistrer la une.
Ils
interdisent. Voilà, du coup, les mecs.
C'est surtout au niveau pépette, tu vois. C'est le fait que les annonceurs, à la fin de la diffusion de Heroes, et dit au regard des audiences cumulées et des audiences qu'avait fait cette série, ils ont dit « Ah ouais les gars, vous êtes bien sympathiques, hein, nous faire payer vachement cher les publicités pendant les épisodes. Mais je vous rappelle, et je voudrais quand même vous signaler que l'année dernière, vous avez diffusé Lost à la même période, hein, pendant les mois de juillet, pendant le mois d'août. Ça a cartonné à fond les manettes et tout, on est monté à 7-8 millions de téléspectateurs par épisode, alors que là, Heroes, maximum 5 millions de téléspectateurs, c'est indigne, on va pas payer aussi cher des pubs pour une série qui ne ramène que 5 millions de téléspectateurs, vous déconnez ou quoi, là, faut pas déconner. Et alors là, TF1 s'en dit, putain, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, on va se ramasser et tout. Ils vont plus nous filer de pognon et là, niquer, quoi. Comment on va faire pour payer Arthur, pour payer Flavie Flamand pour les programmes du samedi soir, là? Et la bonne décision, eh bien, ils l'ont trouvée et on pourra visionner et télécharger 24 heures après la diffusion aux États-Unis, la nouvelle saison de Heroes, la saison 2, c'est à partir de mardi prochain sur www.tf1vision.fr en VO ou en VF avec streaming et tout, à raison de 2,99€ l'épisode.
Ouais, mais il y a des tarifs de gros, c'est-à-dire que moi je l'ai justement quand j'appuie sur la une, j'ai TF1 VOD, donc je pourrais l'avoir direct sur la télé, ce qui est quand même un peu mieux. Et apparemment, c'est 5€ pour 3 épisodes d'un coup. Donc voilà, ce sera en sous-titré, attention, et ce ne sera pas remonté du coup. Il n'y a pas d'obligation de remonter en VOD.
Voilà, hein, donc
c'est youpi. Youpi.
Ah bah ouais, quand même. C'est ça. C'est une bonne nouvelle, quoi.
Ouais, c'est ça, vous allez venir camper chez moi, c'est
franchement,
ça.
Franchement, quoi.
Ouais, ben moi je préfère regarder les séries quand on a tous les épisodes parce que justement, à un compte-goutte, c'est trop. C'est inhumain.
D'accord.
À présent, j'ai fait un petit visionnage cette semaine pour savoir quand même de quoi je parlais. Je vous avais parlé là il y a 15 jours de KLXY, cette série diffusée sur W9 le mardi à partir de 20h45, hein, qui a donc débuté non pas mardi dernier, mais mardi d'avant, il y a une trentaine de jours. Et en vous disant que cette série qui, mine de rien, comme ça, avait débuté sympatoche sur la télé américaine et tout, et au fur et à mesure des épisodes, eh ben, c'était fait des téléspectateurs à fond les manettes, à tel point que eh bien, les diffuseurs avaient décidé de reconduire cette série pour une deuxième saison, alors que c'était vraiment pas, ça apparaissait vraiment pas au départ comme étant une série capable de franchir la barre fatidique de la fin de première saison et de la deuxième saison. Et c'est le cas, hein. KLXY donc, ou KXY pour les non-anglophones, interprété par Matt Dallas dans le rôle principal. Bon, on rappelle vite fait le pitch, hein. C'est la même chose que John Doe, ça commence pareil, alors t'as la même image en plus, hein. En contre-plongée, tu vois un mec à poil couché dans la forêt et tout, et puis qui sait pas d'où il vient, et il se fait découvrir par les flics qui le confient à une psychiatre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette psychiatre, eh bien, a une famille, hein, avec un mari et deux enfants, hein, un pré-ado, on va dire, qui va rentrer au lycée, et une ado assez pratiquement adulte, hein, on va dire, hein, parce qu'elle a laissé tomber l'école, elle est déjà en train de bosser. Et en fait, la série est un petit peu plus intéressante que cela, parce que déjà, la personnalité de KLXY est très bien exploitée, je trouve, hein, avec une espèce de voix off, hein, qui lui permet de d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à la situation dans laquelle il est plongé, la vie de famille, le rapport avec les autres, et les rapports entre les gens, parce que bon bah il vient de nulle part, mais il n'a pas de sentiments tels que nous on peut en avoir, il n'est pas formaté, on va dire, hein, donc il va découvrir petit à petit tout ce qui se passe, hein, et dans le premier épisode de mardi dernier, qui à propos du mensonge, il y a pas mal de tournées, hein, pas mal d'effets scénaristiques qui sont assez bien menés, hein, pour lui faire amener à découvrir que c'est le mensonge, comment ça se pratique et tout, à quoi ça sert, en fait, le mensonge en société, quoi, tu vois. Et c'est là que c'est assez fin, en fait, pour que la mayonnaise puisse prendre, de toute façon. Après, la série est produite par Buena Vista et Touchstone, donc sa branche cinéma et télévision. Donc, on se dit que bon, Disney ne va pas faire forcément dans le carton à fond les manettes. Quoique, hein, on le voit, c'est également eux qui font Esprit Criminel. Donc, hein, des fois, ils peuvent s'aventurer sur des chemins.
Ils ont une chaîne de télé qui s'appelle ABC, qui va mourir. Hein, donc...
Ouais, justement. Et donc, dans KLXY, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un petit mélange des genres qui est très sympathique. Hein. Alors, beaucoup de ressorts comiques quand même, hein, pour faire adopter les histoires par la majeure partie des gens, et une espèce de ton à la Dawson, on va dire, un petit peu enjoué comme ça, sympathique. On vit dans un monde gentil. Il y a pas de méchant pour l'instant. Si, il y a un méchant, mais bon, pour l'instant, il est encore assez sous-jacent, quoi, on va dire, parce que bon, ben, il faut dire que KLXY, dans sa découverte du monde tout gentil, tout beau, de la société américaine, où tout le monde a sa petite maison, ses deux ou trois voitures, son petit jardin, et quand on va pas à l'école, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On va à la piscine, enfin bon, super quoi, vraiment le monde rêvé, idéal, impeccable. Et pourtant, bon bah il y a quand même une histoire de meurtre, hein, qui commence à prendre lieu, puisque bon, pas loin de là où on a retrouvé KLXY, dans la même forêt, eh bien on a retrouvé le cadavre d'un autre bonhomme, et là ben les flics commencent à intervenir, et il s'avère que KLXY pourrait être impliqué dans ce meurtre. Mais attention, il ne sait pas que quelqu'un le surveille, et ce quelqu'un qui le surveille, eh bien ce n'est autre que Nicolas Lee.
Oh, Krychek,
magnifique, qui joue un petit peu le même rôle que Krychek, hein, c'est-à-dire le type qui arrive et comme on sait pas exactement ce qu'il veut et tout, qui appartient à une compagnie un petit peu bizarre dont pour l'instant on ne connaît que le logo. Il se fait virer d'ailleurs dans le premier épisode de mardi. Il se fait virer de cette compagnie, hein, dont on ne sait rien d'autre. Hein, un petit peu plus tard, il descend carrément le mec qui l'a viré. De loin comme ça, on apprend que c'est implicitement que c'est lui qui a tué l'autre, quoi.
Sans deck.
On sait pas pourquoi. Et c'est un petit peu l'élément comme ça sous-jacent qui fait que la série est intéressante parce qu'elle se lit à plusieurs niveaux et à plusieurs niveaux de compréhension en fait. Il y a plusieurs histoires comme ça qui sont parallèles et qui rendent la série un petit peu plus intéressante, qui peut donc être suivie soit par des ados qui vont juste trouver intéressant de voir des histoires d'ados, des histoires de Kyle XY, de Kyle qui découvre un petit peu la vie comme ça. Alors, il y a une scène vachement marrante où bon, il a la faculté d'apprendre tout très 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 très, très vite, hein, c'est-à-dire que bon bah quand il va comme ses parents, son père ou sa mère ne savent pas quoi foutre de lui puisqu'il peut pas aller à l'école et tous essaient de l'inscrire dans une école, ils peuvent pas puisque bon bah il a pas de background du tout quoi, il est jamais allé à l'école. Donc difficulté au niveau des papiers et tout, on parlait des fonctionnaires avant, voilà, un des petits exemples. Alors il va à la piscine mais il sait pas nager et tout, donc il va apprendre à nager avec la nana dont il est secrètement amoureuse, donc il est secrètement amoureux, et il y a une scène vachement rigolote où bon bah il tombe dans l'eau et tout, on cherche à le ranimer alors que bon bah il est capable de tenir sa respiration vachement longtemps, de rester en apnée à fond, et puis bon il y a tout le monde qui s'approche près de lui et tout quoi, et puis bon la nana qui est par ailleurs maître nageur dans la piscine et tout quoi, elle se met sur lui pour essayer de le ranimer et tout quoi, et puis bon tout le monde se recule, oh qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, le mec, il a la gaule, une gaule monstrueuse. Quelques petits effets sympas comme ça, quoi, qui vont faire que la série peut être justement lue et regardée à différents niveaux, quoi. Donc, parce que là, c'est vraiment le trip d'Osson à fond. Enfin bon, hein, les petits trucs ados, quoi, qui font un petit peu sourire comme ça, quoi. Les petits émois, on va dire. Ce qui en fait une série qui est quand même sympathique, vachement agréable à regarder, quoi. Kyle XY, donc c'est sur W9. Mardi à 20h45, alors je vous passe les rediffusions. Mardi prochain, donc deux épisodes, Soif d'apprendre tout d'abord et après la pluie. Alors vite fait maintenant, les séries qu'il faut se mater parce que bon c'est vraiment du bon, il n'y a pas de problème. Alors bon c'est toujours plus ou moins dans le même style, il y a beaucoup de polars hein, de toute façon. Avec Preuve à l'appui, donc la sixième saison, alors là qui cartonne, je trouve que vraiment ça cartonne. Ils ont changé le ton de la série, on sent que Tim Kring qui est le créateur de la série qui au départ voulait faire une espèce de pas police procédurale, enfin si c'est quand même un police procédural, une enquête policière par épisode, hein, c'est-à-dire un truc un petit peu lassant, et c'est un petit peu pour cela que Tim Kring au bout d'un moment bah a largué, s'est dit bon ok j'ai plus rien à dire sur cette série, j'ai créé le bébé, je peux le filer à d'autres qui sont aussi doués que moi pour entretenir un petit peu la série. Alors elle en est à sa sixième saison, et là dans la sixième saison ça commence à cartonner à fond les manettes parce que bon bah on commence à avoir des histoires qui tiennent la route et des histoires qui vont être linéaires, hein, c'est-à-dire des scénarios qui vont durer sur plusieurs épisodes, hein, avec toujours, bien entendu, l'enquête qui va durer pendant un épisode, hein, qui sert un petit peu de liant comme ça, quoi, hein, pour ramener un petit peu au niveau de l'unité de lieu les gens dans l'endroit où ils travaillent, c'est-à-dire la morgue en l'occurrence. Mais par contre, ça cartonne à fond les manettes, avec toujours Gene Lancy qui est magnifique, impeccable, les mêmes Jerry O'Connell aussi qui est pas mal du tout, hein, vraiment, quoi, franchement, quoi. Et tous les autres, hein, Miguel Ferrer, enfin bon, Steve Valentine, Ravi Kapoor. Enfin, tous excellents de toute façon. Alors deux épisodes lundi prochain. Alors, par contre, ce qui est pas excellent, c'est l'horaire de diffusion de TF1. Merci les gars, bande d'enculés. C'est en troisième partie de soirée. Alors lundi dernier, c'était à 23h20. Là, ce lundi, ça va être à 23h35. Merci les gars, hein, sympa, hein, vraiment, vraiment sympa, hein. Cool. Avec deux épisodes, Contre l'indifférence, qui est moins 12, et 33 balles, qui est moins 10. Encore du moins 12 avec Esprit Criminel, toujours sur TF1, c'est mercredi après les épisodes de CSI Miami, à 22h25, avec deux épisodes, le premier réalisé par Tim Matson, qui s'appelle Après la pause, et le deuxième Tueur d'enfants. Mais là c'est pareil, hein, c'est très bien foutu, ça tient la route, profitez-en, il y a Mandy Patinkin qui disparaît à la fin de la saison 2, parce que c'est Nana qui va le remplacer dans la saison 3. Alors donc profitez-en quand même. Brotherhood, sur 13ème rue, ça a démarré vendredi dernier, avec l'épisode Retrouvailles, hein, l'histoire tiré d'un fait réel, hein. C'est pas une histoire complètement inventée, hein. C'est une histoire qui a vraiment existé, hein. Ce gangster irlandais, hein, qui voulait prendre le contrôle de toute une partie d'une ville dans le Connecticut, et dont le frangin, bah, était sénateur des États-Unis. ouais. Et donc on peut, si vous avez loupé l'épisode vendredi dernier, bien il y a une rediffusion, mais alors vachement tard, sur 13e rue mercredi prochain à 00h15, avec donc le premier épisode de Brotherhood qui s'appelle Retrouvailles. Le deuxième épisode est programmé vendredi prochain à 22h25. Que justice soit faite.
Treize heures et pratiquement 3 minutes dans la poubelle des radios. Du sport.
Alors là, Xavier.
Aïe.
Alors là, Xavier, merci. Tu vas être devant ta télé mercredi prochain, 20h45, sur France 4 pour...
Docteur Who.
Oh, Docteur Who.
Ah, je me disais qu'il y avait vraiment beaucoup en ce moment de stats.
J'en connais. La rediff. On recommence depuis le début pour ceux qui ont loupé des épisodes, et ça, c'est pas con du tout. Hein.
Oui, parce que là, en ce moment, il y a environ une dizaine, quinzaine de personnes par jour qui consultent l'affiche sur la série qu'on avait fait.
Ben ouais. Donc, séance de rattrapage. Le premier épisode de la saison 1, la nouvelle série Doctor Who, hein, c'est-à-dire pas l'originel qui date du milieu des années 60.
63 la première.
Hein, milieu des années 60 quoi. Celle avec Christopher Eccleston dans le rôle du Docteur Who, donc c'est diffusé à partir de mercredi prochain sur France 4, ouais, 20h45.
Le Docteur tout court. Le Docteur.
Oui, le Docteur, oui.
Doctor Who? The Doctor, simply The Doctor.
Ah ouais, ouais.
C'est comme ça qu'il dit j'adore.
Et avec Billy Piper aussi. Ouais. Parlons de tout à fait autre chose. Rachel Nichols, ça vous interpelle? Non, pas du tout. Bon, non, tant pis. Bah, c'est pas mal. C'est sympathique quand même. En tout cas, moi, j'aime bien. Quoique c'est diffusé assez tard et qu'à cette heure-ci je me suis déjà endormi devant Prison Break, alors bon, je loupe un petit peu le début. C'est The Inside qui est programmé après Prison Break, mais qui est nettement plus intéressant, il faut le dire. Bon, vu le ton et vu le sujet de la série, c'est du moins 12 chaque épisode, hein, c'est normal, hein. Ça raconte l'histoire d'une série de profileurs du FBI chapeautée par Peter Coyote, et qui essaye de résoudre des cas assez glauques, assez trash, faut le dire, hein. Donc c'est un petit peu normal que ce soit du moins 12, hein. Des fois ça mérite même plus, je trouve, quoi, parce que bon, les ados de 12 ans qui regardent certains trucs, je sais pas quoi, enfin bon. Deux épisodes programmés jeudi prochain à partir de 22h30, donc le pyromane et voleur de cœur. L'histoire intéressante à l'intérieur de The Inside, dans la tête des tueurs, hein, c'est justement l'histoire du personnage principal, Rachel Nichols, qui elle, eh bien, a un passé qui est caché en fait, et ce passé va être découvert au fur et à mesure des épisodes. A priori, il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur de l'équipe qui connaisse son véritable passé, hormis elle, hein, bien sûr, c'est Peter Coyote, le patron, parce que tous les autres membres de l'équipe, ils essayent de savoir qui elle est, mais pour l'instant, Cutchy et tout. Et le plus vindicatif, bien entendu, c'est Adam Baldwin, hein, c'est normal, Adam Baldwin, de toute façon, lui, pour qu'il soit pas vindicatif et tout, il faut l'envoyer chez Disney, et encore, hein. The Inside donc sur M6 jeudi prochain à partir de 22h30. On termine avec les séries anglo-saxonnes avec ce dont je vous avais parlé à propos de Scrubs, qui est diffusé par M6 comme des enfoirés très tard le vendredi soir à 00h15. Tu te rends compte? Il faut le faire quoi pour une série comique, hein. Franchement quoi, là c'est n'importe. Un petit peu n'importe quoi.
C'est une série hospitalière, c'est qu'il doit avoir du sang, ça doit charcuter.
Bah absolument pas.
Mais si, dans les jeux de mots.
Absolument pas. Et surtout pas en version française. Attends, déconne pas, là, ça va, quoi. Alors, Scrubs, c'est la 4e saison quand même. Et vendredi prochain, je vous avais dit que, comme cette série est reconnue outre-Atlantique maintenant depuis quelques années, eh bien, le nombre de guest stars hein, qui commencent à vouloir venir faire un petit tour comme ça. Hein. On avait vu ça avec Friends d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu le même trip où au bout de deux ou trois saisons, il y avait beaucoup de stars qui voulaient y être. Allez, putain, moi je ferais bien un petit truc comme ça. Bruce Willis, on avait vu Tom Selleck, enfin bon, dans Friends, bon, vraiment les gros noms hein, qui étaient là. Et puis pour justement pousser, pour booster un petit peu la série. Et là, c'est un petit peu la même chose avec Scrubs. Deux épisodes vendredi prochain. Le premier s'appelle Mon serment d'hypocritique. En plus, il trouve des titres en français, mais bon. Et le deuxième, Mon porte-bonheur, avec justement dans le rôle du porte-bonheur Colin Farrell, qui joue le rôle d'un Irlandais qui aime bien la castagne. Il joue pas son propre rôle, mais enfin bon, c'est assez proche.
C'est pas loin, oui.
C'est assez proche de ce qu'il est, en fait. Alors bon, est-ce qu'il va picoler en plus? On sait pas, quoi. Enfin, il paraît qu'il s'est calmé, quoi. Hein, au niveau de la picole, quoi, le pot de Farrell. Donc tout ça dans Scrubs vendredi prochain sur M6 à partir de 0h15, et celui avec Colin Farrell à partir de 0h40, vu que les épisodes de Scrubs hein, c'est des demi-sections, donc des 25 minutes. Et je termine au niveau des séries avec du français, ouais, avec une série inédite, c'est dans la case polar du vendredi soir sur France 2, et avec une série qui peut-être eh bien aura une bonne suite, on va dire. 6 épisodes ont été tournés pour cette saison. Ça s'appelle Sur le fil. Ça raconte l'histoire d'un commissaire qui est fraîchement débarqué dans un commissariat vient d'être nommé, au grand dam d'un autre commissaire déjà en place et qui serait bien vu prendre la place de patron. Et puis bon, il a les boules parce que c'est un autre qui la prend. Et tout ça, bon, bah, sur fond d'histoire policière. Sur le fil, ça s'appelle, c'est vendredi prochain à partir de 20h50 avec François Levental, pardon, Benjamin Boyer, Noza Quadra et Jacques Bondou, entre autres. Ça peut être assez sympathique. Même format hein, que pour les PJ, hein, c'est-à-dire c'est des 52-55 minutes. C'est suivi par un autre inédit également français. Central Nuit, hein, la série avec Michel Creton dans le rôle principal, hein, qui est assez sympathique, faut dire quand même. Hein. Ouais, c'est pas trop neuneux.
Mais je le trouve un peu déplacé quand même, hein, Michel Creton, justement là-dedans.
De temps en temps, bon, ben, les sujets sont un peu scabreux, voire franchement, on va dire, fascisant, glauque, hein, un peu con, placé de mauvais côté, mais enfin bon, ok, hein, c'est peut-être le rendu qui veut ça. Mais en tout cas, c'est bien, moi j'aime bien Michel Creton, donc c'est pour ça que je cite cette série, Central Nuit, donc vendredi prochain, après Sur le fil, à 21h45. C'est un inédit, hein, là c'est à partir de vendredi prochain. Il y a de nouveau toute une série d'inédits de Central Nuit qui ont été tournés cette année, en 2007. Et je termine avec un petit peu de cinéma quand même. Alors, je voulais pas vous faire le coup de la soirée Jean-Claude Van Damme contre Steven Seagal dans la même soirée l'un après l'autre, quoi. Surtout pas dans...
Bah si.
Non, surtout pas avec les deux films programmés, quoi, parce que bon, L'Ombre Blanche d'abord et puis Double Team après, quoi.
Non, c'est vrai que...
Non, faut pas, quoi. Ça le fait pas du tout, quoi. J'aurais bien voulu vous faire encore du Delta Force avec Chuck Norris, mais c'est le Delta Force numéro 3, donc Chuck Norris il est plus dedans, c'est con, hein. Bon, bah, s'il y a plus de Chuck Norris, c'est pas intéressant. Par contre, Arte, toujours à la pointe du combat, nous programme une théma demain soir spécial Kung Fu. Avec un des grands films mythiques hein, de la Shaw Brothers, hein, un des plus gros succès de la Shaw Brothers, la 36e chambre de Shaolin,
ouais,
wow,
ouais,
de Liu Chalang avec Gordon Liu et Lo Lie entre autres, suivi de deux documentaires à 22h35, les filles aussi font du Kung Fu, et à 23h30, le maître de Wudang Shan, tourné là-bas dans les montagnes et tout. Putain, j'ai vu des photos hier, et j'ai un pote qui y allait cet été, magnifique. Hein.
C'est où ça alors?
En Chine?
Non, mais la diffusion, sur quelle chaîne?
Sur Arte,
tu suis pas.
Arte, dimanche soir, la théma, voyons.
Je me le note.
Et ouais, suivi, attends, c'est pas fini.
Tu peux noter que tu t'es endormi, oui.
Après le maître de Wudang Shan à 23h30, à 0h25, un bon Jet Li quand même, hein, Fist of Legend, hein, le film de 94 de Gordon Chan, le remake du film avec Bruce Lee. Mm. mais où il y a une scène de baston avec la chaîne.
T'as mal
hein
pour lui. Ouais.
Ah ouais, ouais, t'as mal, hein, vraiment t'as mal. Parce que là, je sais pas comment ils font.
Contre le géant de 2 mètres.
Ouais, 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 excellent, vraiment très très bon. Là où Jet Li, il n'était pas encore américanisé vu qu'il était encore en Chine. C'était juste avant hein, qu'il débarque là-bas, mais là ça cartonne à fond. Il y a la scène, le deuxième combat de boxe, je crois, qui est vraiment carton.
Un petit combat contre son ami pour savoir qui c'est qui va aller.
Voilà. Ouais, et après, bon, bah, quand ils sont dans l'espèce d'atelier, là, avec la chaîne et tout, alors là, bon, bah, ok, laissez tomber. C'est moins bien que l'original, de toute façon, mais, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même, hein, Fist of Legend.
C'est le travail de Yuen Wuping sur ce film qui a chorégraphié les combats, qui lui a valu, justement, de s'occuper des chorégraphies de Matrix. Voilà.
Ouais, ouais.
Puisque les Firewatch of Steel l'ont découvert avec, justement, Fist of Legend.
Et pourtant, Yuen Wuping, ça fait des années qu'il travaille ça à Kuen. Voilà, donc je rappelle, demain, Arte Thema Kung Fu, donc avec la 36e chambre de Shaolin. Et ça, c'est à 20h45. Et vachement tard dans la nuit, à 0h25, Fist of Legend, donc avec Jet Li, le film de Gordon Chan. Et voilà, tu vois, j'ai pas trop débordé pour une fois. Hein. Concis, net et précis, quoi.
Bah oui, puisqu'il est midi, il est 13h, 12 minutes et 34 secondes, ça tient un petit peu du record, mais bon, aussi, Thomas, est-ce que tu peux faire le résumé pour ceux qui ont pris une émission en cours de route ?
Oui, il y a eu, comme d'habitude, du plantage de programmation de CD, du plantage de lecteurs de CD, un flash d'info spécial cinéma, des autres spectateurs qui ont répondu à la question de du sport. Xavier a encore joué avec son effet burn de 500 kg, du ralenti dans l'équipement, on a eu de la BD sur les fonctionnaires, les Emmy Awards, la série TV et de la soirée chinoise.
Et Thomas qui n'arrive pas à suivre d'ailleurs justement. Mais c'est sur quelle chaîne ? Bah voyons. Nom d'une soirée qui bastonne sa race sur les bords du parc technologique du canal. Ils ont manqué tout ça, heureusement ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.tk, tout attaché, sans accent, sans tirer. Et n'hésitez pas à poser vos questions à l'équipe, ou bien répondez aux questions qu'on vous pose, et peut-être que bientôt on vous proposera des cadeaux, voilà. Du sport.
Et ouais, la question, parce que moi je me suis endormi pendant Prison Break, alors j'aimerais bien savoir ce qui arrive au mec qui prend T-Bag en autostop là, avec sa fille qui est à l'arrière. Et... alors si vous avez la réponse, je pense pas que ça arrive dans l'épisode que dont j'ai loupé la moitié, mais si vous avez déjà vu la deuxième saison de Prison Break en entier, là vous pouvez toujours répondre, y a pas de problème, ça m'intéresse.
Voilà, du sport qui se pose beaucoup de questions devant Prison Break et qui profite de l'antenne pour se...
voilà, c'est ouais, bon, ouais.
Non, mais c'est vachement compliqué, Prison Break. Hein, vois, j'ai du mal.
Ouais, note, tu sais, hein, moi j'arrive pas à suivre Derek. Je suis obligé de me repasser l'épisode que j'ai loupé au ralenti pour être sûr de tout comprendre. La semaine prochaine, dans l'agenda, vendredi 28, à la librairie Album, durant l'après-midi, Fabrice Labrousse, Francis Chal sont les auteurs de Il était une fois la guerre des étoiles, la galaxie George Lucas. Thomas, normalement, devrait peut-être en faire un petit compte-rendu. Et... non, il ne s'en est pas occupé. Bravo. Super. Tommy Valente dédicacera Les 4 princes de Ganaan. Ça sort chez Delcourt sur un scénario de Raphaël Drommelschlager. C'est vendredi 13 octobre à octobre. Et du vendredi 18 au 21 octobre prochain, le festival En Attendant est proposé par 6M1P, la revue gratuite culturelle dont le numéro 8 vient de sortir. Et tout bleu, Sion. Bleu-vert avec un petit nuage qui pleut comme dehors, voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, supplément weekend.tk, et peut-être sur Radio FMR encore, pour l'instant on n'en sait rien, on en rediscutera prochainement. Allez, ciao, bye bye, see you. Et du sport va assurer la continuité.